Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, il y a un an, nous commémorions les apparitions de la très sainte Vierge Marie à Fatima. Que cela ne soit pas qu'un souvenir de plus en plus lointain. Tout ce que nous avons appris ou approfondi l'an dernier au sujet du message de Notre-Dame doit nous servir à mieux répondre désormais à ces demandes. C'est que non seulement la dévotion au cœur immaculé de Marie, comme la dévotion au Sacré-Cœur, sont le sommet de la piété catholique, son couronnement, mais ce sont les seuls moyens de salut donnés au monde d'après la Révolution, et pour nous le moyen le plus sûr de traverser les temps actuels sans perdre notre âme. Fatima est d'ailleurs un écho de pareil aumônial. La prière enseignée par l'ange du Portugal aux trois enfants, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels notre Seigneur est offensé dans le sacrement de l'Eucharistie, est une réplique des paroles de notre Seigneur à Sainte Marguerite Marie. Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, et je ne reçois de la plupart que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Et si la petite Jacinthe est le modèle de la dévotion au cœur immaculé de Marie, François est le modèle de la dévotion au Sacré-Cœur. S'il n'en parle pas explicitement, il la vit, c'est certain. À partir du moment où l'ange avait dit aux trois enfants « Consolez votre Dieu », François ne vivra que pour une chose, consoler notre Seigneur. François lui demanda Lucie « Qu'aimes-tu le mieux, consoler notre Seigneur ou convertir les pécheurs afin qu'il n'y ait plus d'âme à tomber en enfer ?» J'aime mieux consoler notre Seigneur et ensuite convertir les pécheurs afin qu'ils ne l'offensent plus. Pour cela, François va multiplier les prières et les sacrifices. Lorsqu'il gardait les brebis avec Jacinthe et Lucie, souvent au moment du jeu, il disparaissait. « Où étais-tu, François ?»« Je priais tout seul pour consoler notre Seigneur qui est si triste. » Un jour, au milieu des chaleurs de l'été, la marraine de Lucie offrit aux enfants un verre d'hydromel, boisson délicieuse faite avec de l'eau et du miel. François ne but pas, passa le verre à Jacinthe, puis il disparut discrètement. Lorsqu'on le retrouva, il dit « Lorsque j'ai pris le verre, je me suis souvenu soudain de faire ce sacrifice » pour consoler notre Seigneur. Et pendant que vous buviez, je me suis enfui. Et l'on sait les heures qu'il passait à l'église du village, à genoux devant le tabernacle, pour tenir compagnie à Jésus hostie que si peu viennent prier, afin de le consoler. Mais revenons à Paray-le-Monial. Si, comme le rapporte Sainte Marguerite Marie, notre Seigneur lui montra son adorable poitrine qui ressemblait à une fournaise et au milieu son cœur qui était la source de ses flammes, c'est pour nous faire comprendre que la rédemption est une œuvre d'amour. Mais l'amour véritable demande la réciprocité. C'est le commandement de la charité donné par notre Seigneur et qui résume toute la morale chrétienne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. Ce qui implique à la fois de n'aimer aucune créature au point de se séparer de notre Seigneur et aussi de combattre les péchés véniels délibérés qui freinent notre amour de Jésus et nous empêchent donc de nous donner à lui avec toute la générosité possible. Mais ce serait tronquer singulièrement la dévotion au Sacré-Cœur que d'en oublier l'aspect réparateur. Après avoir dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes », notre Seigneur ajouta aussitôt « Je ne reçois de la plupart que des ingratitudes ». Un point essentiel de la dévotion au Sacré-Cœur, c'est que cet amour dont le cœur de Jésus est embrasé doit être considéré comme un amour méprisé et offensé par l'ingratitude des hommes. Notre réponse au Sacré-Cœur doit donc être double. D'abord, un amour qui répond au sien, et ensuite, une douleur qui nous porte à réparer les injures qu'il souffre de la part des hommes. Bien sûr, dans la gloire où il est, Jésus ne souffre plus maintenant. Mais s'il ne souffre plus aujourd'hui des péchés de notre époque, il en a souffert il y a 2000 ans, les voyant alors clairement pendant sa passion, dans sa vision de Dieu face à face. Aujourd'hui, du haut du ciel, il est témoin de ses péchés qui l'ont fait souffrir autrefois, et il est consolé de voir nos réparations et expiations. Réparations et expiations qui l'ont réconforté à l'avance il y a 2000 ans et dont il prend plaisir actuellement, ce qui augmente son bonheur accidentel. Son bonheur essentiel consiste dans la vision de Dieu face à face, notre Seigneur l'a eu dès sa conception. Son bonheur qu'on dit accidentel consiste dans la joie que lui apportent les créatures lorsqu'elles compatissent à ses souffrances passées et lorsqu'elles veulent réparer les offenses des hommes de leur époque. Plus concrètement, notre dévotion au Sacré-Cœur consistera à offrir en réparation au cœur de Jésus les sacrifices nécessités par nos devoirs quotidiens et à répondre autant que nous pouvons le faire à ces demandes particulières que sont la communion réparatrice des premiers vendredis du mois et l'heure sainte mensuelle en union avec son agonie au jardin des Oliviers. Tout cela, c'est la dévotion personnelle au Sacré-Cœur. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Toute une partie du message de Paray-le-Monial est destinée à Louis XIV. Notre Seigneur lui demande de se consacrer à son divin cœur, non pas en tant que personne privée, mais en tant que roi, c'est-à-dire en tant qu'il personnifie la France. Ce qui veut dire que notre Seigneur veut régner sur les sociétés, non seulement parce qu'elles lui appartiennent, Dieu le Père lui ayant donné les peuples en héritage, mais aussi pour pouvoir régner plus facilement sur les individus. C'est évident que lorsqu'une société est totalement athée et païenne comme la nôtre, il est beaucoup plus difficile à notre Seigneur de régner sur les âmes que lorsque nous étions en chrétienté, c'est du bon sens. Et depuis que la Révolution a voulu rejeter ce règne social de notre Seigneur, le grand combat des catholiques est de travailler à rétablir ce règne. Monseigneur Lefebvre ne cessait de nous le rappeler, ce fut l'essentiel de son combat. La fête d'aujourd'hui est alors comme un complément, un approfondissement, une intériorisation, si l'on peut dire, de la fête du Christ-Roi. Nous précisons que le règne social du Christ est le règne social du Sacré-Cœur, ce qui veut dire deux choses. D'abord, que sa royauté sociale est une royauté d'amour, et ensuite, que l'âme de notre combat pour le Christ roi, de notre combat contre la révolution, est la dévotion au Sacré-Cœur. Le pape Léon XIII ne rappelait-il pas que le cœur de Jésus surmonté d'une croix était maintenant notre étendard, notre signe de ralliement contre les ennemis de l'Église. On comprend alors que les papes, surtout depuis la Révolution, aient exhorté les fidèles à se consacrer au Sacré-Cœur. La consécration personnelle au Sacré-Cœur est un don complet de nous-mêmes au cœur de Jésus, afin de ne plus vivre que pour lui, pour ses intérêts, pour son amour. Vous trouverez à la sortie sur notre table de presse ce petit livret très bien fait, expliquant pourquoi et comment on peut se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus. Et cette consécration individuelle doit conduire à la consécration des familles, à la consécration de toutes nos œuvres au cœur de Jésus pour avancer son règne d'amour sur le monde entier. C'est dans cet esprit que nous allons renouveler maintenant la consécration de la communauté au Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.